Donc, on est à 7 h 01. Donc, on va ce soir, on va commencer une étude sur Joseph. Joseph, c'est un caractère très intéressant dans la parole de Dieu. Puis, on va aller dans le chapitre 37 de la Genèse. C'est là qu'on va voir, comme j'avais annoncé la semaine passée, on va regarder Joseph comme le choix. Il va y avoir 4 points qu'on va regarder ensemble. Puis, Joseph comme le choix du père. Puis Joseph, la haine de ses frères, puis Joseph avec la tunique de plusieurs couleurs, puis ensuite, comme dernier point, on va regarder l'humilité de Joseph. C'est qu'avant d'aller plus loin, on va lire le chapitre 37 de la Genèse. On va lire tout le chapitre parce que ça concerne tous les points qu'on a vus. Donc, Genèse, chapitre 37. Verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, mais pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, et qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob la reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander au Seigneur son aide pour notre étude. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier encore une fois pour ta bonté envers nous. On veut te remercier de nous rassembler autour de ta parole. Et Seigneur, on te demande ton aide afin qu'on puisse tirer de ta parole des choses qui vont nous aider dans notre vie chrétienne. Seigneur, qui vont nous encourager, nous fortifier, nous donner la connaissance de ton Fils. Et de le connaître, lui, c'est de connaître le Dieu fidèle et vrai. On te remercie pour toutes ces choses, Seigneur. On te remercie pour ta bonté. Je te demande ta bénédiction sur chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Donc, OK, on va commencer avec le choix du Père. Puis le choix du Père, on le voit dans les versets 2 et 3. Là, on voit comment Joseph, c'est étonnant de voir quand il parle en commençant le chapitre, il dit, voici la postérité de Jacob. Puis il parle de Joseph. Donc, c'est quand même remarquable. Il dit, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Là, on voit au verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Les versets 34 et 35, on voit encore ici, quand Jacob, ses fils lui ont dit que ils ont ramené la tunique de plusieurs couleurs avec le sang du bouc qu'il avait mis dessus. Il dit au verset 34, il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il pleurait son fils. Donc on voit ici que Jacob avait choisi son fils Joseph. Puis c'est sûr qu'on est toujours porté à dire c'était du favoritisme de la part de Jacob de choisir Joseph. Mais est-ce que c'était vraiment du favoritisme? Mais on voit que, est-ce que ses frères avaient raison d'être fâchés contre lui? À cause de, on sait qu'ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père, puis on pense au fait que c'est quelqu'un qui placotait par rapport à eux autres. Mais on va regarder un peu la raison pourquoi Jacob avait choisi Joseph. Donc, c'est pas vraiment du favoritisme que Jacob avait choisi Joseph. C'est pas par favoritisme. C'est parce que on voit ici que Joseph nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ. Puis on sait que le Seigneur Jésus-Christ, son nom, le Christ, veut dire loin, celui qui a été choisi. Mais est-ce que Dieu agit en favoritisme en choisissant le Seigneur Jésus-Christ? On va voir que non. C'est ça qu'il veut dire. Le mot Christ veut dire choisi. C'est loin du Père. C'est lui que Dieu a choisi. Mais pourquoi que Jacob a choisi Joseph? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans le verset 3. Il dit, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Donc, puis quand on regarde ce passage-là, le mot vieillesse ici, c'est un mot qui veut dire être vieux, un homme âgé ou devenir vieux. Puis qu'est-ce qui arrive quand on devient vieux? Quand on devient vieux, bien, à un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre notre place. Fait que c'est ça que Jacob avait en vue en choisissant Joseph. Il avait en vue le bien de toute la famille, de transférer la bénédiction que lui avait reçue de son père et qui va la transférer maintenant à la famille. Puis on pense ici dans l'idée du premier-né, là. L'idée du premier-né, c'est celui qui va prendre la bénédiction pour la transférer. C'est en vue de la bénédiction de toute la famille. Le premier-né, ce n'est pas nécessairement juste pour lui-même. Comme le Seigneur Jésus, qui a été choisi, ben ce n'est pas pour lui-même, c'est pour nous-mêmes. Il va s'étendre vers nous avec la bénédiction qui vient de Dieu. Mais au verset 2, on voit Quand il dit ici, Joseph âgé de 17 ans. Voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Âgé de 17 ans, le mot là, c'est étrange, là, mais c'est le mot Ben. Quand on pense à Benjamin ou Benoni, ou quand on parle de Ben dans la parole de Dieu, c'est un fils. C'est le mot pour fils. C'est comme ça qu'il a été traduit, âgé de 17 ans. Mais c'est un fils comme celui qui bâtit le nom de la famille. C'est ça, quand on parle on dit et fils là, dans une compagnie, hein, c'est ce qu'on donne le nom ici, on dirait Jacob et fils. Ben, le fils ici, ce serait Joseph. C'est lui qui est, c'est comme une branche ou comme un rejeton ou le premier-né. Quand le sujet du premier-né dans la parole de Dieu, ben, c'est toujours en vue de la bénédiction pour plusieurs. Mais Jacob pensait à toute sa famille dans son choix de Joseph. Quand il a choisi Joseph, il pensait à toute sa famille. Parce que Joseph était le meilleur pour prendre la tête. C'est lui vraiment qui avait le caractère nécessaire pour pouvoir prendre cette bénédiction-là. On sait que Jacob, lui, quand il l'avait eu de son père, il l'avait désiré. Mais c'était vraiment, il devait aller vers Isaac voulait la donner à Ésaü. Mais Ésaü, pour lui, c'était pas important, la bénédiction. Puis il l'a vendue pour un plat de lentilles. Puis c'était pas quelque chose que lui, il tenait fermement. Là. Puis on voit que dans son caractère, Ésaü n'avait pas le caractère pour prendre cette bénédiction-là, puis la transférer. Mais Jacob, lui, il la voulait. Puis c'est pour ça que pour lui, c'était précieux. Puis en la transmettant maintenant, parce que maintenant, elle allait passer à celui qui allait lui succéder. Puis Jacob, il voyait dans Joseph vraiment celui qui avait le caractère. Puis on va le voir en avançant plus loin, là. C'était lui qui avait le caractère vraiment pour pouvoir avoir la capacité de recevoir cette bénédiction-là, pardon, puis qu'elle deviendrait en bénédiction pour le reste de sa famille. Donc, Joseph était le meilleur pour prendre la tête afin de conduire la famille dans l'obéissance à Dieu ou dans la bénédiction, de les garder dans la bénédiction. Quand on pense à l'élection de Dieu, l'élection de Dieu n'est pas exclusive quand Dieu est choisi, mais l'élection de Dieu est inclusive. C'est pour ça qu'on dit on a été choisi en Jésus-Christ avant la fondation du monde, mais en lui on a été choisi. C'est en Christ qu'on a été choisi avant la fondation du monde. Parce que le Seigneur, Dieu, en choisissant le Christ, il devient le chef de file. C'est lui qui est le premier-né pour toute la bénédiction de ceux qui vont s'approcher de lui. Donc, c'est en vue de. Dieu a choisi le Seigneur Jésus-Christ en vue de sauver quiconque va vouloir être sauvé. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est en vue de la bénédiction de toute la famille que Jacob a choisi Joseph ici. Donc, puis on sait, on va le voir que plus tard, même à travers tout ce qu'ils ont fait à Joseph, lui, il va devenir la source de leur salut. C'est lui qui va les nourrir quand il n'aura plus la nourriture, puis quand ils vont être en Égypte. Donc, mais on voit que Joseph, comme le Seigneur Jésus-Christ, il a été choisi à cause de son caractère. Puis dans Hébreux 1,9, il nous dit, par rapport au Seigneur Jésus, c'est une citation du psaume 45, on ira dans le psaume 45 après, mais quand dans Hébreux 1,9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. On le voit dans Joseph parce qu'il n'aimait pas les mauvais propos de ses frères. C'est pour ça qu'il les rapportait à son père, parce que c'était l'intérêt de son père qu'il avait en vue. C'était l'intérêt de la business de son père qui tenait à cœur. Puis il n'aimait pas que quelqu'un puisse amener un préjudice à la business de son père. Il voulait vraiment garder, c'était précieux. On voit comment il avait à cœur la bénédiction de son père. Donc il dit, le Seigneur Jésus aussi, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et les collègues ici, le mot veut dire, c'est un participant. C'est celui qui a part ou par implication, c'est un associé. Donc, il était dans toute, parmi nous autres, le Seigneur Jésus il était au-dessus de toutes les autres. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est à la première place. Mais on voit dans verset 2 que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Mais on va aller dans le psaume 45 un peu. Puis c'est un beau psaume, le psaume 45, qui nous parle du roi, qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ, un psaume messianique. Il rapporte avec le Seigneur Jésus. Mais à partir du verset 3, regarde, il nous dit ici, puis ça nous montre la supériorité ici du Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu, il s'est fait homme, c'était Dieu lui-même. Mais il s'est fait homme, il a pris une chair semblable à la nôtre, acceptée sans le péché. Mais il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Voyez-vous la supériorité du Seigneur Jésus? La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Donc, c'est pour ça le choix. C'est pour la bénédiction, pour transmettre la bénédiction. Vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc, on voit ici la supériorité morale du Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr que Joseph n'avait pas cette supériorité égale au Seigneur Jésus-Christ. On sait que la parole de Dieu ne rapporte pas aucun des péchés de Joseph. Il passe sous silence. C'est sûr que lui était un homme, puis la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais le Saint-Esprit a choisi, a trouvé bon de ne pas rapporter aucune chose par rapport à Joseph parce qu'il nous fait penser au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, vraiment, il était parfait, il était impeccable. Impeccable, ça veut dire pas seulement qu'il n'a pas péché, mais il n'aurait pas pu pécher. Parce que le Seigneur Jésus, c'était la justice parfaite. Puis c'est pour ça qu'il était au-dessus de tout, au point de vue moral, c'est l'homme parfait. Il n'y a aucun autre qui peut être égal au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour ça qu'à travers les autres hommes, que ce soit n'importe quel chef religieux, puis il y a des gens qui ont été vraiment dévoués pour le Seigneur, que ce soit Paul ou d'autres à travers l'histoire de l'Église ou à travers l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont été dévoués pour le Seigneur. Le Seigneur les a utilisés, puis on fait bien, comme Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, mais aucun n'égale au Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr que si c'était juste de Paul, on n'aurait pas pu avoir le salut qu'on a eu. Parce que Paul se disait lui-même être le chef des pécheurs ou le plus grand des pécheurs. Mais il lui a été fait grâce. Mais le Seigneur Jésus, lui, dans son caractère, il était parfait. Puis on avait besoin de quelqu'un de parfait. Pas comme les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament qui devaient, eux, offrir des sacrifices pour leurs propres péchés. Puis ensuite de ça, offrir des sacrifices pour le peuple. Mais le Seigneur Jésus, lui, pour pouvoir détenir la bénédiction de Dieu, pour pouvoir avoir cette bénédiction qui pourrait nous transférer, il fallait que lui soit parfait. Et lui, il était vraiment parfait. Il n'avait rien, il était le plus beau des fils de l'homme. Puis c'est tout un privilège de savoir qu'il y a eu un homme comme le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Donc, il s'est fait homme. C'est lui qui était parfaitement dans son caractère à lui-même, dans sa justice parfaite. Il était en parfaite communion avec son Père, étant Dieu lui-même, mais il s'est fait homme. En tant qu'homme, il était un homme impeccable, parfait. Puis nous, c'est à travers lui qu'on peut rentrer en contact avec Dieu. Ça n'aurait été jamais possible si on n'avait pas eu un homme. C'est pour ça que c'était important que le Seigneur Jésus se fasse homme, puis qu'il se fasse homme, mais l'homme parfait, qui était le seul qui pouvait aller prendre nos péchés en son corps sur le bois, puis mourir pour nos péchés. Comme le brigand sur la croix, quand il a vu le Seigneur Jésus, il a dit à son ami de l'autre côté, il a dit, toi, tu ne crains pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, puis pour nous, c'est justice, parce que c'est ce que nous ont mérité nos crimes. Mais en se tournant vers le Seigneur Jésus, il a dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Puis là, il s'est tourné vers lui et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Fait que on voit l'importance ici d'avoir le Seigneur Jésus. Ça aurait été impossible autrement. Puis on pense à toutes les religions dans le monde Il n'y a pas une religion qui peut nous donner ce que le Seigneur Jésus nous donne. Parce que lui, il détient la vie éternelle. Il détient la bénédiction de Dieu en tant qu'homme. C'est sûr qu'avant, il était au ciel, il était Dieu, dans la présence de Dieu de toute éternité. Mais en se faisant homme, il est venu comme notre représentant. Puis, on avait besoin de cet homme-là parfait. Puis, c'était vraiment important. Mais on voit que Joseph, il était au milieu d'eux. Parce que quand il parle, on va voir, quand il parlait des gerbes, nous étions alliés des gerbes, puis ma gerbe. Donc, sa gerbe était avec les autres gerbes, mais elle s'est élevée, puis les autres gerbes sont venues se prosterner devant elle. Donc, le Seigneur Jésus, il s'est retrouvé au même niveau que nous autres. Il est descendu, il s'est humilié, il s'est fait homme. Il a pris la forme d'un serviteur, puis il a marché parmi nous à un tel point que les gens ont pu dire, c'est qui lui? C'est le fils de Joseph. Ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Donc, il était au même niveau. Le Seigneur Jésus a dit qu'il était doux et humble de cœur. Puis, il était vraiment, il s'est fait homme, il s'est humilié au point qu'on a pu lui cracher au visage, on a pu lui arracher la barbe, le frapper, le mettre sur la croix. Il était avec ses disciples aussi, il leur a lavé les pieds, puis Pierre s'est indigné du fait que le Seigneur vienne pour lui laver les pieds. Puis le Seigneur lui a dit, Pierre, si je te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir de part avec moi. Puis Pierre a dit, ben, tout mon corps entier. Puis le Seigneur a dit, non, celui qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Puis le Seigneur, il était au même niveau. Jean a pu coucher sa tête sur sa poitrine. Donc, il est venu parmi nous. Ça, c'était important. Mais dans Romains 8, 3, il nous dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça, on va le voir quand on va parler de l'humilité de Joseph aussi, comment le Seigneur Jésus s'est humilié. Puis, il a pris une chair semblable à la nôtre, comme à celle du péché, mais sans péché lui-même. Mais il a pris nos péchés en son corps sur le bois. Donc, Jacob, en le choisissant ici, il regardait à la relève pour le chef de sa famille. Jacob était le chef de sa famille, mais lui, en passant, parce qu'il était dans sa vieillesse, comme on l'a vu, eh bien, quelqu'un devait prendre la relève. Puis Jacob, en regardant dans toute sa famille, il pouvait reconnaître que Joseph était vraiment celui qui avait la capacité morale de pouvoir, à qui il pouvait transférer. Parce que c'est quelque chose de précieux, cette bénédiction-là. Puis, pour que toute la famille puisse en bénéficier, il fallait que quelqu'un soit digne de la recevoir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a été choisi à cause de sa propre justice. Lui, il était juste en lui-même. Il était parfaitement juste. Mais nous, on est choisi à cause de sa justice, dans sa justice. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il a été choisi pour que sa justice puisse nous être transférée par la foi, à cause de son sacrifice qu'il a accompli une fois pour toutes. Car par une seule offrande, dans Hébreux 10, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, nous avons été choisis à cause de la justice du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a été choisis en lui avant la fondation du monde. Si ce n'était pas de lui, personne ne pourrait recevoir la bénédiction. Donc, c'était lui qui était le canal pour transmettre la bénédiction, comme Joseph ici, son père, l'avait choisi pour que lui puisse transmettre la bénédiction à toute la famille à travers Joseph. Mais on voit que les frères de Joseph, quand on pense, là, on a parlé de la supériorité du caractère de Joseph, mais on va parler un petit peu de ses frères. Si Jacob ne les a pas choisis, ben, il y a une raison pour ça. Donc, on voit que les frères de Joseph, dans notre récit ici, dans Genèse 37, ils ne pouvaient pas partager les sentiments de leur père. Il n'y avait pas, parce qu'on a vu quand ils se sont présentés devant lui avec la tunique, avec le sang dessus, ben, ils n'ont pas pris à cœur que la souffrance de leur père ici. Parce qu'on voit que Jacob, au verset 34, il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Puis, c'est comme si les autres, ils ne pouvaient pas entrer dans ce sentiment-là que son père avait, cette tristesse-là qu'il allait vivre maintenant. Donc, il n'avait pas vraiment à cœur leur père comme Joseph, lui, l'avait. Donc, il n'y avait pas égard. Il était insensible aux larmes de leur père devant la disparition de Joseph. Mais Joseph, lui, se préoccupait des intérêts de son père. Voyez-vous la supériorité de Joseph par rapport à son père? Lui, il avait vraiment à cœur les intérêts de son père. C'est ça qui passait avant toute chose. Puis le Seigneur Jésus était comme ça aussi. Le Seigneur Jésus avait les intérêts de son père. Quand on voit le verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, on est souvent porté à penser qu'est-ce que ce verset-là veut dire pour nous autres. Parce que nous autres, on est contents. C'est sûr qu'on dit que c'est l'Évangile dans une capsule. C'est vraiment l'amour de Dieu qui a été manifesté à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous, on est heureux de ce verset-là. On aime ce verset-là parce que c'est là qu'on trouve l'amour de Dieu pour nous dans la personne du Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert pour nous. Mais si on regarde ce verset-là de la part du Seigneur Jésus-Christ, celui qui savait, Dieu a tant aimé le monde. Donc, le Seigneur Jésus, il voyait l'intérêt de son Père, c'était qu'il aimait le monde. Fait que le Seigneur Jésus, lui, en voyant l'amour de son Père pour le monde, ben, il s'est livré lui-même. Et il s'est donné, quand le Père dit, qui enverrai-je? Il a dit, me voici, envoie-moi. C'était comme pour offrir à son père une compagnie de gens qui l'auraient sauvé par son sang. Des hommes que Dieu avait créés, mais qui s'étaient détournés de lui, qui s'étaient rebellés contre lui. Puis maintenant, le Seigneur Jésus, bien, c'est un peu comme dans son amour pour son père, dans les intérêts de son père, qu'est-ce qu'il voulait, bien, c'était de racheter les hommes pour les offrir à son père. Un jour, il va nous prendre, il va nous faire entrer dans la maison du Père avec lui. Voyez-vous comment, qu'est-ce que ce verset-là pouvait dire pour le Seigneur Jésus? C'est que si Dieu a tant aimé le monde, bien lui, il était prêt à s'offrir, avec toutes les souffrances que cela représentait, de se faire homme, de venir sur la terre, d'être méprisé, d'être rejeté, de souffrir. Oui, on pense aux souffrances physiques du Seigneur Jésus. Puis, dans le film de Mel Gibson, bien, il pouvait nous montrer les souffrances physiques du Seigneur Jésus, mais il y a les souffrances morales du Seigneur Jésus-Christ aussi. Quand il a été fait péché pour nous, quand il a subi la colère de Dieu à notre place, tout ce que ça représentait pour lui, bien, le Seigneur Jésus, on peut pas approfondir cette souffrance-là. On peut le voir un peu, mais on ne peut pas entrer dans la profondeur de la souffrance que le Seigneur Jésus a subie à notre place sur la croix du Calvaire. Puis il l'a fait par amour pour nous, oui, mais il l'a fait par amour pour son Père, comme pour offrir. Vous voyez le Seigneur Jésus a vraiment les intérêts de son Père à cœur, au point de se donner lui-même pour nous sauver de nos péchés, puis nous offrir à Dieu comme une offrande à Dieu. Mais au verset 2, quand il dit cet enfant, quand il dit ici au verset 2, là, il dit, cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Le mot enfant ici, là, c'est un mot qui veut dire un garçon actif, de l'enfance à l'adolescence, par implication un serviteur. Fait que Joseph, depuis son enfance, Joseph était vraiment dédié, il a toujours été, c'est pour ça que son caractère était parfait, que dans la parole, comme on voit, le Saint-Esprit ne nous parle pas des manquements de Joseph, mais de sa tendre enfance à aller jusqu'à ce point-là, Joseph était parfait, il était intègre, il était un serviteur, il était vraiment dévoué à son père, puis on le voit dans la façon qu'il va prendre soin de ses frères. Mais dans Genèse 49, on voit que Jacob donne une bénédiction sur ses fils, sur tous ses fils. Il donne une bénédiction, mais c'est sûr que il révèle dans cette bénédiction-là qu'on voit, il révèle un peu le caractère de ses fils à travers ces choses-là qu'il dit dans Genèse 49. Ruben, il dit de Ruben qu'il est impétueux. Impétueux, ça veut dire instable, comme des eaux, parce que, car des, comme des eaux, car tu n'auras pas la prééminence, car tu t'es monté sur la couche de ton père. On sait que dans la Genèse, on voit que Ruben est allé vers la femme de son père et il a couché avec la femme de son père. Donc, c'est pour ça il était le premier-né. En principe, il aurait dû être celui qui détenait la bénédiction, mais parce qu'à cause de son caractère impétueux, puis Jacques va en parler aussi, qui est instable comme les eaux, mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Voyez-vous ici combien il n'avait pas les intérêts de son père aussi à cœur que Joseph. Puis après ça, il nous parle de Siméon et Lévi. Et Siméon et Lévi, il dit, ils se sont associés pour être cruels. Puis leur colère, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans Genèse 34, les versets 7, 13 et 25, on voit que leur sœur, la fille de Jacob, Dina, avait été, puis Sichem l'avait pris, puis l'avait déshonoré. Puis Jacob y a attendu quand ses fils sont arrivés des champs pour leur raconter qu'est-ce qui était arrivé. Puis les autres ils ont utilisé l'astuce pour demander à Sichem, qui voulait marier leur sœur, qui devait être circoncis comme eux pour faire un même peuple. Ils ont dit, vous prendrez nos fils, puis nos filles, puis tout, on va se mélanger. Et ils ont dit, on ne pourra pas se mélanger à moins que vous soyez circoncis. Mais c'était vraiment une astuce pour, pendant qu'ils étaient souffrants, ben, Siméon et Lévi sont allés avec leur glaive, puis ils ont tué tout le peuple. Puis là, Jacob était consterné. Il dit, vous me mettez en opprobre avec les gens du peuple. Ils vont venir, puis ils vont nous attaquer. Mais tout de suite, dans le chapitre 35, on voit que ça a amené Jacob à se repentir, puis ils ont enlevé les dieux étrangers du milieu d'eux. Ils ont enterré sous le chêne. Puis là, après ça, la terreur de Dieu était avec eux autres. Il y a eu comme un réveil dans la famille de Jacob à ce moment-là. Mais Judas, lui, quand il parle de Judas dans Genèse 49, il dit que Judas était un jeune lion. Mais le mot jeune lion, ça veut dire un lionceau qui est encore dans la tanière. Comme il n'est pas encore adulte, il est encore tout petit. Mais c'est sûr que éventuellement Judas, il va avoir la priorité. C'est lui qui va avoir la bénédiction. Mais au moment présent, au moment ici dans la Genèse, il n'était pas encore assez mature pour avoir cette bénédiction-là, pour la transférer. Il était encore comme un jeune lion dans la tanière. Parce qu'on sait que Judas, quand on lit dans Genèse 38, Judas, il a délaissé ses frères. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, mais il est allé, puis là, il a marié Tamar, il a marié, il avait un ami, l'Adoulamite, puis il s'est marié, puis il a eu des enfants qui, eux, sont morts parce que il déplaisait au Seigneur. Mais il a été séparé de ses frères. C'est pour ça qu'il n'était pas encore prêt pour recevoir la bénédiction. Plus tard, on sait que le Seigneur Jésus va venir le lion de la tribu de Juda. Puis, dans un sens, Juda va avoir la prééminence, mais au moment-là, c'était Joseph qui était choisi. Mais c'était lui qui reste pas sous le fardeau. Il a quitté la famille. Donc, il n'y avait pas l'intérêt pour la bénédiction que Jacob donnait à ses enfants. Il a quitté sa famille. C'est celui qui ne reste pas sous le fardeau, mais quand il y a des difficultés qui arrivent, il s'en va, puis il n'y a pas la maturité pour faire partie de la solution, il laisse tomber. Puis dans Philippiens 2:12, il nous dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, mais Judas, lui, il a préféré partir. Puis il a abandonné la famille pour un temps à cause de situations. Issachar, lui, il dit qu'il est robuste comme un homme. Tu sais, il est robuste, mais il courbe son épaule sous le fardeau à cause de sa complaisance. Il a la capacité, Issachar, il aurait eu la capacité de pouvoir se tenir debout, mais à cause qu'il se trouvait bien dans ces situations, mais il courbe son épaule. Puis il prend ses aises, puis il se met sous le tribut au lieu de combattre puis d'avoir la victoire. Dans Proverbe 6, 9 à 11, il dit: Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Puis ainsi de suite, quand on regarde tous les fils de Jacob, dans la bénédiction, c'est une bénédiction prophétique qui décrit un peu leur caractère, mais on voit qu'eux, ils n'étaient pas à la hauteur de recevoir cette bénédiction-là qui allait pouvoir la transmettre au reste de la famille. Donc, ce n'est pas une question de favoritisme. Jacob, en choisissant Joseph, il avait à cœur, il voulait vraiment transmettre la bénédiction au reste de sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il cherchait, Jacob? Il cherchait le chef de file pour sa famille, pour qu'il puisse continuer après son départ. Puis, mais comme j'ai dit, les frères de Joseph n'étaient pas, ils n'avaient pas le calibre, ils n'avaient pas la qualité morale, le caractère pour pouvoir garder, prendre, recevoir cette bénédiction-là, puis la transmettre au reste de la famille. Ils étaient faibles dans leur caractère. Dans le psaume 53, les versets 3 à 4, il dit: Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Donc Dieu regarde, quand on voit qu'il a choisi le Seigneur Jésus, il regarde du haut des cieux les fils de l'homme et pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais il dit: Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc on voit comment c'était impossible parmi les hommes qui sont sur la terre d'en trouver un. C'est pour ça qu'il a fallu que le Seigneur Jésus vienne et se fasse homme. Mais pour le Seigneur Jésus, quand il a regardé, il n'a pas vu au travers de nous autres aucun qui pouvait avoir, qui était intelligent, qui cherchait Dieu. Mais pour le Seigneur Jésus, dans Matthieu 3, 13, 3, 17, il a dit: Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Imaginez-vous, quand les disciples ont vu ça, ils n'ont pas été jaloux du Seigneur Jésus. Mais c'était merveilleux que Dieu, en regardant ici sur la terre, il pouvait trouver un homme comme le Seigneur Jésus. Puis qui, pouvoir dire: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un peu comme Jacob, en choisissant Joseph, il a trouvé celui en qui il faisait tout, il trouvait toute son, il a mis toute son affection. Mais c'est pour notre bénédiction qu'il l'a fait ainsi. Donc, quand on pense à Joseph, par exemple, dans Genèse 49, quand il est dans la bénédiction prophétique de son père, on voit dans le verset 22 qu'il dit qu'il était un rejeton, le rejeton d'un arbre fertile. Donc, il était un rejeton d'un arbre fertile. Ensuite de ça, il nous dit qu'il était près d'une source. Donc, il y avait une bonne provision d'eau qui était stable et adéquate. Un arbre planté près des courants d'eau qui, quand la sécheresse, il ne voit pas venir la sécheresse parce que son feuillage reste vert, il reste toujours, il y a toujours une source abondante. C'est ça que Jacob voyait dans Joseph. Il voyait quelqu'un qui était planté près d'une source d'eau. C'était le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Puis, ensuite de ça, il dit de lui qu'il s'élève au-dessus de la muraille. Non seulement il est en bénédiction pour la famille, mais c'est comme si la muraille ne peut pas le contenir. Il s'élève au-dessus de la muraille, son fruit ne pouvait pas être contenu, il s'étendait jusqu'aux nations. Là-dessus, on voit ça dans le Seigneur Jésus. C'est sûr qu'il est venu parmi les siens, mais la bénédiction du Seigneur Jésus est venue parmi les siens, parmi le peuple juif, mais aussi il s'est étendu. C'est comme si la muraille ne pouvait pas le contenir. Il s'est répandu pour devenir en bénédiction aux nations. On dit qu'il s'est tourné vers les nations parce que son peuple l'a rejeté, mais il est aussi vers eux parce que les Juifs aussi peuvent être sauvés de la même façon. Paul le dit dans Romains 11, il dit: Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Il dit: Moi, je suis. Il était un Israélite, il était de la tribu de Benjamin, puis lui aussi avait part à la bénédiction du Seigneur Jésus, comme ses frères, Joseph, quand Joseph va devenir en bénédiction pour les nations, pour l'Égypte. C'est lui qui va sauver l'Égypte, mais aussi, il va les sauver de la famine, mais il va aussi sauver ses frères de la famine. Quand ils vont venir vers lui, il va pouvoir les nourrir aussi. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus Il était, c'est comme si la bénédiction du Seigneur Jésus devenait tellement grande que c'était trop pour Israël. Ça s'étendait jusqu'à nous autres, les païens. Puis ça, c'est ça qui est arrivé avec Joseph. Il est devenu le sauveur en Égypte, mais aussi pour ses frères qui sont allés vers lui. Donc, on voit qu'il a été mis, puis là, on parle de son caractère, on parle de comment il était supérieur dans sa qualité morale, mais on voit que même il a été mis à l'épreuve. Hein, le Seigneur Jésus, on sait qu'il était parfait, mais le Seigneur Jésus a été mis à l'épreuve aussi. Mais quand il a été mis à l'épreuve, c'était pas comme la tentation du Seigneur Jésus, c'était pas pour le faire pécher, mais c'était pour lui montrer c'était impossible que le Seigneur Jésus pêche. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Quand le Seigneur Jésus était un peu comme un pont, on dit qu'un pont, il est bon pour 30 tonnes. Mais en mettant 30 tonnes sur le pont, ce n'est pas pour le faire tomber, mais c'est pour prouver qu'il est capable de soutenir 30 tonnes. Puis le Seigneur Jésus, quand il a été tenté par le diable, eh bien, c'était pour démontrer qu'il était impeccable. C'était pour démontrer que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y avait rien dans le Seigneur Jésus qui a pu répondre à la tentation. C'est comme ça. Lui était mis à l'épreuve, voyez-vous, dans le verset 23. On va aller dans Genèse 49. On va voir les versets 23 et 24. Dans la bénédiction justement de Jacob, quand il parle de lui, là, au verset 22, il dit: Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Regardez au verset 23, il dit: Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Et vous, comment dans l'épreuve, Joseph, lui, il a démontré comment il était parfaitement, il était dans une perfection morale parfaite. Parce qu'on ne voit jamais de la haine de la part de Joseph envers ses frères qui l'ont vendu, ils voulaient même le tuer. Puis lui, il prenait à cœur quand même, puis on le voit. Ils ont essayé, ils l'ont mis à l'épreuve, mais il a démontré la perfection de son caractère. Comme le Seigneur Jésus a été mis à l'épreuve en allant jusqu'à la croix du calvaire, mais en étant mis à l'épreuve, il a démontré sa perfection. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui le tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Puis il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que dans Hébreux 7, 26, il dit: Il nous convenait en effet. Donc, il fallait qu'on ait quelqu'un comme ça. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Et il y en a eu des souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament, mais il n'y en a pas un qui était comme lui. Parce que ils avaient des péchés eux-mêmes. Ils pouvaient être compatissants pour ceux qui étaient faibles, parce qu'ils étaient faibles eux-mêmes. Mais le Seigneur Jésus, il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Est plus élevé que les cieux. Et vous, c'est sûr que quand on regarde à Joseph, on voit un beau caractère, on voit le Saint-Esprit ne nous donne pas de faute par rapport à Joseph, mais quand on regarde le Seigneur Jésus, c'est encore plus grand. C'est encore parfait, parfait dans toute sa personne, sans aucune tache. Puis il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme ça. Pourquoi? Le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu. Pas pour lui-même. Oui, il se présentait pour lui-même à cause de ses péchés. Il y avait un sacrifice, mais il se présentait comme représentant du peuple. C'est pour ça que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, ben, il était habillé. Il avait des vêtements glorieux. Il était vêtu pour entrer dans la présence de Dieu parce qu'il représentait tout le peuple. C'est pour ça que quand il allait pour offrir le parfum, comme on voit Zacharie dans l'Évangile, qui allait offrir le parfum, le peuple était dehors et il attendait. Pourquoi qu'il attendait? Mais il attendait de le voir ressortir. Puis parce qu'il ne ressortait pas tout de suite, ils se sont inquiétés. On dit même que le souverain sacrificateur, on lui attachait une corde après le pied pour que si jamais il était frappé dans la présence de Dieu, bien, le peuple n'aurait pas osé entrer dans la présence de Dieu pour aller le chercher. Il tirait avec la corde. Mais le Seigneur Jésus, lui, c'est certain, c'est parce que si le souverain sacrificateur n'était pas reçu, le peuple n'était pas reçu. Mais le Seigneur Jésus, lui, il était reçu à cause de sa sainteté, à cause de sa justice parfaite, comme notre représentant. Puis lui, en étant reçu dans la présence de Dieu, ben nous, ça nous dit que nous aussi, on est reçu parce qu'on est reçu en lui. C'est en Christ qu'on a toute la bénédiction que Dieu avait pour nous. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir, puis on regardera dans un prochain temps. La semaine prochaine, je vais être à Edmonton, mais il y a un dîner, puis il y a une réunion. C'est dans le dîner, après la réunion, dans l'après-midi. Ça serait peut-être un peu difficile pour me rendre en temps, parce que là-bas, 7 heures, ça donne 5 heures là-bas. Mais je vais regarder quand je vais arriver là-bas, puis je vous laisserai savoir. Je demanderai à Denis peut-être d'envoyer une note à chacun si on peut se réunir lundi prochain ou non. Fait que je vous laisserai savoir. Je vais être là jeudi, là. Mercredi, je vais être là. Fait que je m'arrête là, puis je vous donne la possibilité, si vous avez si vous avez des questions ou des commentaires, on va les prendre pendant un temps.
Merci Gérald. C'est triste de voir que ça n'aura jamais été l'intention des frères de Joseph d'admettre vraiment le sort, qu'est-ce qui lui est arrivé à leur père. Hein?
Ouais.
Jacob serait mort puis sans savoir qu'est-ce qui serait vraiment arrivé à son fils. Hein?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, il était dans la tristesse parce qu'il ne voyait plus d'espoir pour la famille.
Oui.
Et eux, ils savaient pourtant, mais ils sont venus pour le consoler, mais ils n'ont jamais dit qu'il était encore vivant.
Oui. Un verset, Gérald, comme tu as mentionné, on voit Joseph qui veut faire la volonté du Père, verset 13. Il dit, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. C'est fort, hein? Me voici. Ça me fait penser à Isaïe, à un moment donné, hein? Après que son péché a été expié, l'Éternel avait dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et puis Isaïe avait dit, me voici, envoie-moi. Hein? L'obéissance.
Ézéchiel aussi, quand le Seigneur a dit, je rends ton front dur comme un diamant, faire ce peuple rebelle, puis c'était pas facile d'aller parler pour Dieu au peuple. Le Seigneur Jésus aussi, c'est la même chose, mais il est venu quand même.
J'imagine, vous tous aussi, après avoir été sauvés, quand vous avez lu Joseph, l'Esprit nous parlait un petit peu dans le même sens que tu nous enseignes ce soir, et sûrement que vous avez tous pleuré aussi en lisant cette histoire. Hein?
C'est aussi quand ses frères vont finalement se présenter devant lui, puis là, il ne voulait pas, comme les Juifs ont dit, nous ne voulons pas de cet homme pour régner sur nous, mais un jour, ils vont se courber devant lui de cœur, comme les frères de Joseph, dans leurs besoins, ils se sont courbés devant lui de cœur. Et Joseph était bon envers les autres.
On voit dans le récit du chapitre 37 la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu. Il a utilisé Ruben pour pas que Joseph meure. Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Une autre chose aussi, c'est que on voit que souvent le mensonge accompagne le péché. Les frères de Joseph, ils l'ont mis dans une citerne et ils l'ont vendu. En tout cas, ils l'ont vendu. Puis, pour cacher leur péché, mais Ils ont fait croire à leur père qu'il avait été tué par une bête sauvage.
Ouais, c'est ça.
Moi, personnellement, je suis intrigué par le personnage de Jacob. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob et Ésaü. Jacob, il a tout ça dans sa tête, là. Là, il voit la famille, il voit Joseph, il le protège parce qu'il sait qu'est-ce qui pourrait arriver. Il l'a vécu, lui. Alors là, je suis pas sûr qu'il sait exactement que Joseph, qu'est-ce qui va arriver. Il sait pas, en fait, là. Pour lui, c'est un peu, c'est de l'inconnu, mais il y a ce sentiment-là qu'il doit le protéger. Puis bon, au fil des. Là, il y a un moment donné, il perd Joseph. Là, c'est un coup dur, là. Mais à la fin, tu l'as bien souligné dans le chapitre 49, on voit comment là, c'est comme si Jacob réalise la main toute puissante de Dieu qui agit. C'est Joseph, effectivement, qui est le rejeton, puis c'est lui qui est comme tu disais, le prince, en fait, le prince de la tribu, là, puis ça va continuer. Après ça deviendra Judas, là, on connaît un peu la suite, mais je suis intrigué par ce personnage-là, Jacob, là. C'est fou, là.
Ben, surtout que Jacob, il était habitué d'arranger les choses pour que ça fonctionne.
Oui,
Là,
exactement. Oui.
c'était hors de ses mains.
Oui.
Peut-être après Joseph, on regardera peut-être Jacob dans cette
Oui.
situation-là. Lui, d'habitude, il arrangeait ça pour que ça marche.
Oui.
Là, il ne peut plus,
Oui.
là, dans sa pensée, Joseph est mort.
Oui.
C'est impossible.
Ouais.
Mais il ne transfère pas la bénédiction à un autre.
Non. Non, ben c'est ça. Mais à la fin,
Ouais.
il reconnaît la souveraineté de Dieu, là.
Ouais.
Il réalise que c'est Dieu qui est tout-puissant, puis c'est lui qui contrôle tout, là. C'est comme s'il admet, là, du garde, là, avant de mourir, là, du garde, l'Éternel, tu as tout en main, là.
C'est
C'est
ça.
comme s'il lâche prise, finalement.
Ben, ça a fallu qu'à un moment donné, il lâche prise.
Oui.
Il a fini en adorant Dieu, appuyer sur son bâton. Son bâton, c'est à cause de son infirmité. Il a reconnu Mais il avait bien vu quand même. Il avait
Oui,
bien. Il avait reconnu.
ouais, je pense que c'était en cours de route que le Seigneur lui révélait assez pour que dire, ben là, oui. Tu sais, en tout cas, je suis intrigué pareil là, de voir comment que Jacob a agi à travers ça, là, dans tout ça, mais on reconnaît effectivement, comme tu l'as bien souligné, que Joseph est un caractère du Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Là. Non, ça,
Il était
Mais bien.
supérieur, tellement supérieur en caractère.
Ouais.
Puis
Aspen.
il l'a prouvé dans son épreuve.
Oui. Merci, merci, Gérald.
Une réflexion, hein, quand je vous écoute. On voit à travers Joseph, disons, l'humanité de Jésus. C'est vraiment beau, hein? C'est vraiment beau. Hein? L'humanité de Jésus.
C'est simple, on voit aussi qu'il va marier il va pas marier une femme de la famille de Jacob. Il marie une femme d'Égypte, comme le Christ a marié son épouse qui était prise des Juifs et des païens. Mais c'est comme
Bon. Mais je trouve difficile à suivre l'idée des bénédictions. Oui, il y a le caractère de l'individu, mais Jacob, à la fin de sa vie, quand il va bénir Éphraïm puis menacer les enfants de Joseph, il va inverser la bénédiction. Fait que, à un moment donné, il me semble qu'on se perd dans la bénédiction qui, normalement, revient au fils aîné, là.
C'est un principe dans la parole de Dieu qu'on voit. Puis Jacob, il était manigancieux, tout ça, il essayait d'arranger les choses pour que ça marche, mais il avait quand même une intelligence spirituelle. C'est qu'il y a un principe dans la parole de Dieu que la bénédiction vise le deuxième. Parce que lui-même était le deuxième. Ésaü était né en premier. Mais il a vu dans les. Puis Joseph, il disait non, c'est pas comme ça. Il a essayé de changer ses mains, mais il dit non. Parce qu'il voyait que. Puis Éphraïm est devenu plus grand en bénédiction que Manassé. Parce que Manassé était une plus petite tribu. Éphraïm est devenu une plus grande tribu qu'on voit plus la bénédiction de Dieu sur Éphraïm. Mais c'est un principe, même comme nous autres, dans notre première naissance, on n'a pas la bénédiction. Mais c'est dans notre deuxième naissance. C'est pour ça qu'il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un principe. Puis même dans le rôle de la femme, on voit que la femme est utilisée, c'est elle qui est venue en deuxième. C'est tout un principe dans la parole de Dieu que la bénédiction va aller sur le deuxième. Le premier, lui, il l'aurait parce que c'était comme Ésaü, lui, c'est moi le premier-né. Mais Dieu dit non, je ne vais pas. Lui, il l'aurait eu comme un dû, mais Dieu le donne comme une grâce. Jacob, lui, il l'a reçu comme une grâce. Ce n'était pas à lui, ce n'était pas destiné pour lui, mais il l'a reçu comme une grâce. C'est ça qu'il reconnaît, le principe que la bénédiction vise le deuxième. Comme le premier Adam, c'est le deuxième homme, le dernier Adam qui a la bénédiction.
Parce que le Christ vient de Juda quand même, là.
Oui, c'est ça, oui. Mais comme on a dit, Judas n'était pas à la hauteur à ce moment-là. Mais
Moi,
éventuellement, oui.
oui.
Éventuellement, oui.
Mais la bénédiction est sur Juda beaucoup pour la royauté.
Oui, dans son temps, oui, c'est ça, oui. La royauté, puis encore là, le Seigneur Jésus, c'était pas comme souverain sacrificateur, il n'était pas dans la bonne tribu, il était dans la tribu de Juda. C'est pour ça que son sacerdoce n'est pas selon Aaron, mais selon
Non.
Melchisédek.
Ouais.
Là, il devient roi et sacrificateur.
Gérald, moi j'ai une question qui m'intrigue au sujet de la tunique.
Ouais.
Quand les frères l'ont pris, l'ont mis dans le sang,
Ouais.
ils l'ont ramené au père, puis là, ils ont montré la tunique. Je ne sais pas pourquoi il a été dévoré, supposé, mais la tunique, il n'est pas dit qu'elle a été déchirée ou quoi que ce soit.
Ouais.
Je ne sais pas si Jacob, il n'a pas vu clair parce qu'il était aveuglé, là, mais
Ouais.
si la tunique n'était pas déchirée, il me semble que j'aurais pensé à mes fils qui
Non,
ont
il n'est
fait
pas
un.
ici.
Ouais.
Je ne sais pas, mais ce n'est pas marqué qu'elle était déchirée, hein?
Non, c'est pas marqué qu'il était déchiré. Non.
C'est
On
intriguant,
peut
ça
penser
m'avait.
à la tunique de Jésus non
Hein?
plus,
Oui, ils ne l'ont pas
hein?
déchirée.
C'est
Oui, c'est ça.
une belle remarque, ça. C'est
Ouais.
bon.
Ouais.
Mais dévoré, il me semble que le lion, il aurait pu faire une petite
Ouais.
égratignure. Puis je ne sais pas, mais il me semble que ce n'est pas marqué. Ça
Non,
m'intrigue.
non, c'est ça, ouais. C'est pas marqué. Ouais, c'est ça, l'Esprit de Dieu, il passe sous silence des choses où c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va dire, puis les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont pour nous, les fils des hommes, dans Deutéronome 29.
On voit que Dieu est autocontrôle de tout, puis il donne du discernement à Jacob, puis on sait que Jacob, c'était un homme des temps. Il était toujours auprès de sa mère, puis sa mère était, comme on dit, elle savait quoi faire pour mettre Jacob en avantage. Et Jacob en a retiré des leçons. Et c'est, comme on dit, c'était un descendant de la. Il avait été chez Laban, puis il connaissait des plans, comme on dit, pour que ça marche à son goût. Et on voit même, on voit aussi que quand il y a eu Joseph, il y a eu le deuxième change, il a même réprimandé Joseph par rapport à ça. Mais on voit que c'est la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Dieu, il a mis dans le cœur de Jacob de choisir Joseph, mais c'était dans le plan de Dieu, parce que Dieu, il voyait plus loin, tandis que Joseph, lui, il était le serviteur. Jacob, lui, était l'instrument de Dieu dans tout ça. Ses frères à Joseph, ils ont dû rester surpris on va le voir plus tard, quand ils l'ont revu en Égypte. Ça va être, comme on dit, ça va être très intéressant. On va s'en garder.
Alors, je crois que le temps est arrivé. On va peut-être terminer avec un mot de prière, puis ensuite de ça, on va continuer ici à Rivière-du-Loup, on va faire un temps de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui nous révèle à travers ces récits de l'Ancien Testament, Seigneur, des choses grandes parce que. Comme Joseph qui nous fait penser beaucoup au Seigneur Jésus dans toutes ces circonstances qu'il a vécues. On sait qu'on peut voir des parallèles avec ton fils, le Seigneur Jésus. Mais on voit comment ton fils, Jésus-Christ, qui s'est fait homme, Dieu manifesté dans la chair, est tellement supérieur en caractère à tous les hommes qui sont sur la terre. On te remercie, notre Dieu, parce que lui a pu détenir la bénédiction à cause de sa justice, mais aussi pour nous la transférer, afin que nous, on puisse en lui devenir justice de Dieu. On te remercie pour tout cela, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ce temps qu'on a eu ensemble ce soir. Et on te rend grâce pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.